Il est 6h01 à la météo aujourd'hui. Ça qu'on prévoit, c'est du beau temps quand même. Ça va être une belle journée. Du soleil, 28 degrés. Ça sera 33 l'humidex, donc c'est pas si humide que ça. Mais jeudi, encore une fois, soleil 29. Vendredi, soleil 29 degrés. Ce sera parfait. Des nuages prévus pour samedi avec des averses, dit-on, avec 26 degrés. Et le retour du soleil dimanche et re-averses pour lundi avec 28 degrés. Bref, c'est généralement une belle semaine, mais pourrait y avoir quelques soubresauts de dame nature samedi et lundi prochain. C'est ce qu'il faut retenir. Il fait 17 degrés en ce moment à Montréal. Évidemment, il y a énormément de réactions à la suite de cette fusillade qui a fait 3 morts dans Rivière-des-Prairies un petit peu plus tôt cette semaine. Et donc, c'est vraiment la consternation dans bien des milieux. Les résidents du secteur sont, j'allais dire, terrorisés. Assez, c'est assez, c'est ce qu'a dit hier David Chain, le porte-parole du SPVM, à l'intention des groupes criminels. Il dit « À partir d'aujourd'hui, vous avez toutes les forces du SPVM sur le dos. » Moi, quand j'ai entendu ça hier, j'ai dit « Pourquoi à partir d'aujourd'hui? » Ça fait depuis le début de l'année qu'on n'arrête pas de parler de fusillade à la grandeur de la ville. Alors, est-ce que ça a été trop peu, trop tard? On posera des questions à cet effet un peu plus tard. Cet épisode sanglant s'inscrit, lit-on dans le journal La Presse, dans la foulée de nombreux événements qui sont survenus au cours de l'été. Il y a plein d'événements. Là, on en a fait une liste. Puis, c'est pas juste dans Rivière-des-Prairies, là, Verdun, Saint-Laurent, Sud-Ouest, Plateau-Mont-Royal, Pointe-Claire. Pas tous des événements qui ont fait des victimes. Mais quand même des événements qui démontrent que dans bien des quartiers, il y a des problèmes. Et devant cette flambée de violence, la Sûreté du Québec va dorénavant collaborer avec le SPVM pour lutter contre le trafic d'armes. Et c'est un épisode aussi qui s'inscrit de ce qu'on peut penser dans la lutte. En fait, dans cette espèce de guerre des gangs, jusqu'à maintenant, des gangs de rue. Alors, c'est ce qui est pointé du doigt. Et donc... On peut lire d'ailleurs dans le journal de Montréal un compte-rendu là, qu'on fait et qu'il y avait même, la police de Montréal avait un rapport entre les mains qui parle justement de cette lutte de gang. Une des victimes de la fusillade qui a fait 3 morts à Montréal est un rappeur montréalais associé à un gang de rue connu des policiers pour avoir la gâchette facile. C'est ce qu'on lit ce matin en page 3 du journal de Montréal. Jerry Wheeler Jean-Baptiste. Qui est l'une des victimes, des 3 victimes là-dedans, était mieux connu sous le nom de Macazo, qui est un rappeur. Et dans un rapport qui avait été fait, un rapport confidentiel du service de police de Montréal, on dit que l'origine de ça, en fait, Macazo serait associé au gang de rue, les Profit Boys, qui, eux, sont en guerre contre le gang Zone 43. C'est ce que nous disait tout à l'heure Sabrina. Donc, les membres de ces petites organisations seraient réputés pour détenir des armes à feu, à ne pas hésiter à s'en servir. Alors, est-ce qu'on en fait suffisamment? Il y a eu le démantèlement des unités de lutte contre les gangs de rue au SPVM au cours des dernières années. Certains critiquent ça, de s'être concentré davantage sur le contrôle des armes à feu, etc. Il y aurait moins d'enquêteurs associés à ça. Bref, c'est des questions qu'on va poser au cours de cette émission aux intervenants qu'on va recevoir aujourd'hui. On parlera un peu plus tard aussi à Valérie Plante, la mairesse de Montréal. Qu'est-ce qu'on peut faire, justement, pour essayer de contrer tout ça, là? Hier, j'entendais Denis Coderre qui dit que Montréal n'est plus une ville sécuritaire, qui voulait faire de l'enjeu de la sécurité justement une question centrale de la prochaine campagne électorale. Ça a été critiqué, cette sortie-là de M. Coderre, à ce que j'ai vu sur les médias sociaux, entre autres, des gens qui disent c'est peut-être pas le temps de faire de la récupération politique d'événements tragiques. Et là, quand on regarde les noms, en fait, le passé des gens qui sont des victimes dans cet événement-là, les 3 décès. Alors, Jerry Wheeler Jean-Baptiste, 29 ans, dont je vous parlais tout à l'heure, Macazo, le rappeur, et avait été reconnu coupable de possession de drogue entre 2013 et 2016. Il a déjà été victime d'une tentative de meurtre en 2015. Il avait été atteint à la hanche par un projectile. Il a plaidé coupable à la possession d'une arme restreinte en 2016. Bref, on a des vies plates, nous autres, je trouve. Et ces gens-là avaient quand même des passés assez troubles. L'autre, c'est Molière Dante, 63 ans, reconnu coupable de voies de fait en 1997. C'est un habitué, dit-on, du palais de justice depuis 1994, arrêté en 2010 avec un véritable arsenal, deux fusils à canoncier, un pistolet automatique. Bref, c'est des gens qui avaient des passés criminels assez lourds, selon ce qu'on peut voir dans leur pédigree. Et pendant ce temps-là, il y a de plus en plus d'experts de la lutte à la criminalité qui demandent la création d'une escouade policière qui pourrait ressembler à ce qu'on avait à l'époque de la guerre des motards. Souvenez-vous, dans les années 90, on avait créé une escouade qui s'appelait Carcajou, qui était composée de policiers du SPVM, de la Sûreté du Québec et aussi de la Gendarmerie royale du Canada, qui travaillaient ensemble. Donc, il y avait une unité conjointe. On mettait tous les dossiers ensemble, tous les réseaux, si on veut, d'intelligence ou d'information des corps policiers étaient placés en collaboration pour faire en sorte de savoir à peu près tout ce qui pouvait se passer dans ce milieu-là. Et ça avait été lancé à la suite de la mort, souvenez-vous, de Daniel Desrochers, cet enfant qui, malheureusement, était décédé dans l'explosion d'un Jeep piégé en 1995. Et là, on avait dit « assez, c'est assez, il faut faire quelque chose, puis il faut arrêter tout ça ». Or, est-ce qu'il faut attendre, justement, qu'il y ait une autre victime collatérale de cette guerre de gang qui sévit dans les rues de Montréal avant d'agir? On verra aujourd'hui une conférence de presse qui est prévue à 11 heures et à laquelle doivent participer Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, Mme Geneviève Guilbeault, qui sera accompagnée également de plein de monde. Là, le chef de police de Montréal va être là, entre autres choses, mais il y aura aussi d'autres membres du comité ministériel. Là, la ministre responsable de Montréal, Chantal Rouleau, sera là, entre autres choses. La mairesse d'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, Mme Bourgeois, va être là aussi. Alors, est-ce que c'est ce qu'on va annoncer aujourd'hui? Parce que si on sort de cette façon, c'est qu'on va annoncer des moyens. Il va y avoir une concertation à quelque part. Est-ce qu'on va annoncer qu'on met davantage de moyens pour la lutte contre les gangs de rue? On verra un peu plus tard dans la journée, lors de cette conférence de presse. Et là, dans le journal de Montréal, je trouve ça intéressant ce qu'on a fait comme exercice. On parle à des gens qui étaient des voisins de cet immeuble où il y a eu cette fusillade épouvantable. Et c'est la goutte qui a fait déborder le vase. C'est fini, j'abandonne Montréal. C'est ce qu'a dit Patrick Nanga, qui, lui, vit dans ce secteur-là depuis un certain temps. Il dit... Donc, lundi soir, la rafale qui a fait trois morts a éclaté directement dans la cour avant de l'immeuble où il vit avec sa femme et ses trois enfants. Il dit « Je nous laisse deux semaines pour partir d'ici ». Alors, eux autres ont décidé de quitter pour aller s'installer ailleurs. Il y a une dame qui s'appelle également Jessica Auger qui a aussi pris la décision de quitter Rivière-des-Prairies, de quitter le quartier où elle a grandi. Elle dit « Sinon, un matin, je vais me lever et ça va être mon enfant qui va être touché ». Alors, des témoignages comme ceux-là, il y en a plein. Les gens sont un peu, désillusionnés des efforts qui ont été faits jusqu'à maintenant pour essayer de régler ce dossier. Bon, à part ça, on va parler un peu de la crise sanitaire parce que il y a beaucoup d'informations à ce sujet ce matin-là. Entre autres choses, qu'est-ce qu'on fait dans le secteur de Trois-Rivières? Parce qu'à Trois-Rivières, c'est un peu la pandémie est rendue là en éclosion de façon assez importante et la hausse des cas de COVID qui sont notés là-bas, observés depuis quelques jours, pourrait amener une série de mesures qui vont être prises dès cette semaine. Québec se dit prêt à déployer un passeport vaccinal dans la région au besoin. Alors, on dit pas quand, mais Jean Boulay, le ministre responsable de cette région, a dit « on observe une augmentation de cas inquiétant, avec 98 nouveaux cas en 4 jours dans la région. C'est d'autant plus inquiétant qu'on sait que le variant Delta est bel et bien implanté au Québec. » C'est ce qu'il dit. Et il ne ferme pas la porte à l'implantation d'un passeport. C'est d'autant plus... qu'on allait le faire immédiatement, mais on ne ferme pas la porte. Alors, est-ce que ça pourrait être implanté de façon plus ciblée? M. Dubé en avait... évoqué la possibilité de dire si dans certaines régions on voit des éclosions qui ne sont pas contrôlées, on pourrait imposer le passeport vaccinal. Alors, on compte près de 68 cas actifs de COVID-19 par 100 000 habitants à Trois-Rivières. La ville compte pour la majorité des nouvelles infections de la Mauricie, centre du Québec. Alors, c'est vraiment un endroit qui est assez inquiétant. Et le tout survient alors que le Grand Prix de Trois-Rivières doit avoir lieu du 6 au 15 août et ça va amener beaucoup de monde. Alors, l'idée du passeport est envisagée là-bas. Au besoin, on n'exclut pas de prendre ces mesures-là. Et ce qu'a dit Jean Boulay hier, il dit « Nous serons prêts à déployer un passeport vaccinal si jamais la situation se détériorait. Il appartient à chaque Québécois d'aller chercher sa deuxième dose pour pouvoir maintenir ses activités. Ça reste hypothétique, mais on est prêt à le faire comme alternative. » Et pendant ce temps, on entendait également hier Mme Anglade, la chef du Parti libéral, dire « On aimerait ça avoir un passeport liberté, qui serait un peu inspiré, si on veut, de ce qui se fait à New York, entre autres, parce que New York est la première ville aux États-Unis à imposer le passeport vaccinal. Ça va être fait à compter, la date, c'est dans 2 semaines, je pense, là. On commence le 16 août et ce sera, on va y aller en transition, là, officielle à partir du 13 septembre. Alors, l'annonce a été faite hier par Bill de Blasio, le maire de New York. La ville recense en ce moment 1200 cas de contamination à la COVID-19 par jour. C'est 6 fois plus qu'au mois de juin. Alors, c'est le seul moyen, dit-on, de mieux contrôler les contacts entre les gens. Il dit, si vous voulez participer pleinement à notre société, vous devez vous faire vacciner. Il est temps, a dit M. de Blasio hier. Mais on va dire, eux autres, ce qu'ils vont demander, c'est une dose, pas deux. C'est une dose pour pouvoir participer à certaines activités, notamment dans, les bars, les restaurants, etc. Si vous voulez entrer là, il faudra avoir au moins une dose de vaccin. C'est assez accepté à ce qu'on peut lire dans le journal le journal La Presse. Bon, on va poursuivre justement sur cette lancée de COVID-19. L'Institut national de santé publique, l'INSPQ, qui fait des recommandations au gouvernement sur la façon sur les décisions à prendre en période de pandémie, a recommandé hier le maintien d'une distance minimale de 2 mètres en milieu de travail, donc revenir aux fameux 2 mètres. On sait que depuis la mi-juillet, le gouvernement préconise plutôt une distanciation de 1 mètre. Là, on dirait il faut augmenter cette distance-là en fonction des données scientifiques qui sont actuellement disponibles, de l'incertitude qui court avec le variant Delta, et avec les cibles de vaccination qui ne sont pas encore atteintes, eh bien, l'INSPQ privilégie ou recommande la distanciation de 2 mètres. La décision est basée sur la propagation du variant Delta, qui est plus contagieux. 68 % des cas enregistrés au Québec sont attribuables aux différents variants qui sont dits préoccupants. Il y a, oui, le Delta, mais aussi le variant Alpha, qui est prépondérant actuellement au Québec. Alors, on pense que le 2 mètres serait préférable. Et vous savez que la ministre de l'Éducation supérieure, Mme McCann, compte toujours offrir, si on veut, le retour en classe en présentiel au cégep et dans les universités. Il n'est pas question, pour l'instant en tout cas, de porter de masques dans les écoles primaires. Cette décision-là n'a pas été reportée. Mais en Ontario, hier, on a présenté la politique qu'on va appliquer dans les salles de classe lors du retour à l'école dans un mois. Et les étudiants ontariens vont devoir porter le masque, maintenir une distanciation physique à l'intérieur des salles de classe et aussi améliorer. On veut améliorer la ventilation à l'intérieur des salles de classe. Écoutez, c'est des discours qu'on entend au Québec depuis un certain temps. Mais donc, il y aura cependant les activités extrascolaires qui vont être ou parascolaires qui vont être maintenues, même si les personnes en classe vont être... en fait, la présence en classe va être permise. Il y a des familles qui continuent à réclamer que ça se fasse à distance. Et ce qu'on a dit hier dans le plan qui a été présenté par le gouvernement ontarien, c'est de dire, s'il y a des familles qui ne veulent pas envoyer les enfants, ils pourront le faire. Il y aura toujours une possibilité de le faire à distance, comme ça s'est fait l'an passé. Il y a des professeurs également qui demandent la réduction de la grosseur, de la taille des salles de classe, justement, pour limiter les contacts. Bon, à part ça, autre conséquence de la pandémie, le nombre sans précédent d'enfants vulnérables en attente d'être pris en charge par la direction de la protection de la jeunesse, la DPJ à Montréal, a augmenté. La fin du confinement a fait exploser le nombre de signalements et les intervenants doivent mettre les bouchées doubles pour faire face à l'urgence. C'est un dossier dans le journal La Presse ce matin. Le problème, c'est qu'il manque de monde. Il manque d'intervenants à la DPJ en ce moment, puis c'est dur à recruter. 540 enfants sont sur la liste d'attente pour être évalués à Montréal en date du 9 juillet. Alors, c'est peut-être plus aujourd'hui. Et ce sont les données qui sont compilées par le CIUS du centre-sud de l'île de Montréal. C'est du jamais vu. Le nombre d'enfants en attente aurait même atteint 563 à Montréal un petit peu plus tôt cet été. Alors, et ce qui est inquiétant aussi, c'est que sur la liste d'attente, il y a des signalements de code 3 qui sont un peu moins urgents, mais dont, normalement, on impose une évaluation en 3 jours. Et là, on pense qu'on a dépassé ces délais-là parce qu'on n'a pas suffisamment de monde pour pouvoir faire les justement ces vérifications-là. Il manque énormément de gens dans le réseau de la DPJ, pas seulement à Montréal, mais à la grandeur du Québec. C'est très difficile de recruter des gens parce que, évidemment, les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent, bien, ça fait en sorte que c'est extrêmement difficile. Tiens, sur le plan économique, c'est la fin du WIPET québécois. Écoutez, c'est une institution, le WIPET au Québec. Ça a été inventé, je ne savais même pas ça, moi. Le WIPET, ça a été inventé par la compagnie Vio en 1901. Ça s'appelait Biscuit Empire à l'époque, mais ça a été acheté par Vio par la suite. Alors, le fameux biscuit en guimauve enrobé de chocolat ne sera plus fabriqué au Québec bientôt. L'usine Dare de Saint-Lambert, où on fabrique les fameux WIPET depuis des décennies, va licencier en octobre sa première vague d'employés avant de fermer l'établissement pour déménager la production en Ontario. Ça devrait être complété le 22 janvier 2022. Actuellement, il y a 170 employés qui travaillent là-bas. En 2019, il y en avait 275. Et là, Dare prévoyait de fermer l'usine en juin 2020, mais la pandémie a retardé, si on veut, la fermeture. La COVID aurait ralenti le déploiement des machines nécessaires en Ontario pour pouvoir reprendre la production. Donc, on a maintenu l'usine ouverte chez nous. Mais là, ça va être chose conclue. L'usine de Saint-Lambert avait été inaugurée en 1963. Bref, des gens, des salariés qui vont se retrouver malheureusement au chômage qui va faire en sorte que le WIPET ne sera plus québécois, mais sera bien ontarien à compter de janvier prochain. Et ça, ben, c'est assez particulier quand même. Vous vous souvenez de Michel Brûlé, l'éditeur Michel Brûlé, qui est décédé au Brésil il y a quelques semaines. Eh bien, on n'a toujours pas, le directeur des poursuites criminelles et pénales, le DPCP, n'a toujours pas obtenu la confirmation que Michel Brûlé est bel et bien décédé dans un accident de vélo au Brésil. On se souvient que le 31 mai dernier, l'annonce du décès de M. Brûlé avait surpris beaucoup les gens parce que M. Brûlé était en attente de sa sentence pour une cause d'agression sexuelle dont il avait été trouvé coupable. Il était au Brésil, devait comparaître par visioconférence, puis finalement, ça n'avait pas fonctionné. La famille disait, ben non, le problème, c'est que la connexion ici n'est pas très bonne, puis on n'est pas capable techniquement de se brancher. Or, quelques jours plus tard, il aurait été victime. Je dis « il aurait » parce qu'on n'a pas de confirmation officielle de son décès, d'un accident de vélo. Il est décédé. Ce serait casser le cou, selon son frère Martin Brûlé, chez qui l'éditeur demeurait à Guarapari, au Brésil. Alors, il se serait cassé le cou au cours d'une balade en vélo. Il a fait une chute et il est décédé. Et donc, le DPCP souhaite toujours avoir une attestation de décès officielle. On dit que les documents ont été envoyés, mais qu'on doit les faire traduire parce que on parle portugais là-bas. Donc, on veut faire traduire les documents pour être certain qu'ils sont bel et bien véridiques, bel et bien légaux, ces documents-là. Alors, donc, on n'est pas en mesure encore à ce jour, quelques mois après le décès présumé de Michel Brûlé, de prouver, en fait, qu'il est bel et bien décédé maintenant.